Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quel plaisir de vous retrouver pour Ça se dispute ce vendredi avec Gilles William Golnadel. Bonsoir Gilles William.
Monsieur Deval.
Vous allez bien?
Oui, je me porte.
En pleine forme. Merci. Portez pas de cravate le vendredi?
Vous m'avez déjà vu avec une cravate?
Moi, je vous ai vu. Je posant la question.
Je capte et il a porté les cravates.
Julien Drey.
Mais il y a longtemps, hein, c'était quand il était jeune et tout.
Yeah, oui.
Julien Drey, vous allez bien?
Ça date pas d'hier.
Bonsoir.
Bonsoir à tous les deux. On commence le débat dans un instant. Ça se dispute. C'est parti, mais avant cela, le point sur l'info.
Au lendemain des aveux de Lucas L., principal suspect dans l'affaire Justine, l'ouvrier agricole de 21 ans a été mis en examen pour le meurtre de la jeune femme. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de viol, séquestration et meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. Il encourt la réclusion à perpétuité. Pour lutter contre les traversées illégales de la Manche, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak désire une meilleure coopération avec Emmanuel Macron. Cette demande a été formulée lors d'un premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants. De son côté, l'Elysée indique simplement la disponibilité d'Emmanuel Macron pour approfondir la relation bilatérale entre la France et le Royaume-Uni. Moscou annonce avoir achevé la mobilisation de ses 300 000 réservistes. Parmi eux, 41 000 sont déjà déployés en Ukraine. Les autres sont en train d'être formés dans des bases militaires russes. Ils seront utilisés pour permettre de consolider ces lignes face à l'armée ukrainienne.
Merci cher Arthur Muriot pour le point sur l'information. L'oiseau est libéré, c'est pas un mot de code, mais le premier tweet d'Elon Musk qui a annoncé le rachat du réseau social Twitter, coût de l'opération 44 milliards de dollars et des mois de bras de fer, à peine arrivé, il fait le ménage puisqu'il a licencié le patron ainsi que le directeur financier et le responsable des affaires juridiques. Twitter sous l'ère Musk, c'est le retour très possible d'un certain Donald Trump. Donald Trump dont le compte a été supprimé en janvier 2021, après l'assaut du Capitole. Alors, je me suis un peu rencardé, mais Donald Trump sur Twitter, c'était quand même 89 millions de personnes qui le suivaient. Donc, on a les explications d'Elisabeth Guedel, et vous allez me dire si vous applaudissez l'arrivée de Elon Musk à la tête de Twitter.
Twitter est désormais entre deux bonnes mains. C'est la réaction de Donald Trump au rachat du réseau social par Elon Musk, qui a toujours défendu la liberté de ton de l'ancien président américain. Donald Trump se réjouit donc que Twitter ne soit plus dirigé par, je cite, des fous de la gauche radicale. C'est ce qu'il écrit sur sa propre plateforme Truth Social qu'il a créée l'an dernier après avoir été banni de Twitter suite à l'assaut du Capitole à Washington. Elon Musk veut donc restaurer le compte de l'ancien président, mais jusqu'à présent, Donald Trump a toujours refusé de revenir. Il dit vouloir rester sur son propre réseau social, qu'il adore, écrit-il. Pourtant, il n'a jamais récupéré les 88 millions d'abonnés qu'il avait sur Twitter. Il n'en a récupéré que 5%. Truth Social a connu de gros problèmes techniques. En tout cas, les fidèles de Donald Trump se réjouissent de voir un proche de leur champion diriger Twitter. Et puis Facebook, qui avait également banni Donald Trump l'an dernier, décidera en janvier, donc après les élections de mi-mandat, s'il restaure ou non le compte de l'ancien président américain.
C'est avec vous, Julien Drey. Est-ce que ce rachat de Twitter par Elon Musk, il vous inquiète?
Et ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il a expliqué, c'est-à-dire que ça serait sans modérateur. Il n'y avait déjà pas beaucoup, mais là, il dit il n'y aura plus, on pourra faire ce qu'on veut. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, la sphère va pouvoir s'en donner à cœur joie et qu'on risque d'avoir des dérapages terribles et qui seront plus contrôlés. Alors moi, je milite pour que justement il y ait une modération et que l'opérateur, parce que c'est ça la question qui est posée, c'est que l'opérateur soit responsabilisé. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que l'opérateur dit « c'est pas moi, donc chacun fait ce qu'il veut ». Donc vous pouvez avoir n'importe quoi.
William.
Non, de mon point de vue, c'est une excellente nouvelle.
Ça, je m'en doutais pas.
Ouais, je ne comptais pas vous surprendre non plus beaucoup. Je crois que Musk a raison, c'était la gauche radicale qui avait à peu près le pouvoir.
Ça se voyait beaucoup sur Twitter.
Oui. Non, mais,
Tiens, c'est vrai que vous êtes beaucoup censuré.
Écoutez, moi, je ne pense pas représenter la droite radicale, donc ce n'est pas un problème.
Mais, non, et la puis, droite dure.
Non, mais j'évite, en général, j'évite de diffamer les gens, j'évite d'insulter les gens, Vous êtes notamment, sur Twitter. Notamment racialement, et puis je suis un défenseur de la liberté d'expression. Alors, certes, il n'y a pas de solution idéale, Monsieur Drey. La liberté absolue, c'est pas terrible, mais il y a encore pire, c'est la liberté sélective. Or, la gauche radicale, c'était ça. La gauche qui se targuait d'être pour la liberté totale il y a encore 50 ans, ce sont maintenant devenus les principaux censeurs. Ils ont moins d'idées, mais alors du coup, il faut brider les idées des autres. Et on est dans un système sélectif où j'observe que Monsieur Trump avait été viré, mais par contre, l'ayatollah Khamenei, quand même, et y compris ses tweets où il appelait à la destruction d'un certain État, il est toujours là, Monsieur Khamenei. Donc, il y a encore pire, si vous voulez, que la liberté absolue et ses excès, c'est la liberté sélective qui était devenue celle de Twitter. Donc, même si, effectivement, je ne méconnais pas les excès que ça peut avoir, encore que il m'arrive plus souvent qu'à mon tour d'être insulté, y compris racialement, sans que je voie beaucoup d'effets sur Twitter actuellement. Donc oui, l'un dans l'autre, c'est une bonne nouvelle.
Oui, mais justement, c'est pour que vous ne soyez pas insulté et diffamé qu'il faut responsabiliser les opérateurs. Parce que les opérateurs disent, justement, c'est moi, je suis pas. Bon, je pense qu'on n'a pas la même définition d'extrême gauche radicale, et je pense pas que l'ayatollah Khamenei fait partie de l'extrême gauche radicale. Mais c'est pas grave. La gauche radicale a bon dos en ce moment. Mais le problème qui est posé, c'est aujourd'hui comment on contrôle ces réseaux sociaux. Parce que sinon, un jour ou l'autre, vous serez le premier à dire ça suffit.
Non mais
vous serez pas le dernier.
Non mais
plutôt.
Je vais.
Parce que vous savez comme moi. Moi aussi, je me fais régulièrement menacer, tout ce que vous voulez. J'y prends. Je ne lis même plus. D'ailleurs, après les émissions, je fais une confidence. Je ne lis plus. Parce que bon, sinon,
non
je vais me suicider.
Non plus.
Bon, je sors plus de chez
moi. Ça m'arrive de temps en temps, incidemment, de voir, tiens, il y en a un qui m'a rappelé mes origines.
Mais je pense que la question qui est posée, c'est la manière dont on arrivera ou non, un jour, à contrôler ces réseaux sociaux. Non pas pour les brimer, non pas pour interdire la liberté d'expression, mais pour que, moi, c'est la seule chose que je pense qui est faisable, c'est de voir comment on arrive à responsabiliser l'opérateur. Voilà. C'est-à-dire qu'il soit, d'un certain point de vue, comptable.
Il y a quand même, Julien, il y a quand même une question de fond qui est intéressante, et ça, c'est factuel, c'est comment expliquer que le compte Twitter de Donald Trump soit supprimé, alors qu'en même temps, vous avez le porte-parole des talibans qui peut tweeter.
Moi, je ne suis pas le défenseur de Twitter.
Je
suis pas son avocat. D'ailleurs, si j'étais mon avocat, je dis honnêtement, je pense que je ne viendrais pas à l'émission.
Donc, je recommence ce que je veux dire.
Non, mais vous l'avez dit, mais.
Il n'y a pas de solution idéale. D'ailleurs, Musk lui-même est pour quand même le respect de la loi. Ça va déjà éviter, même si la loi américaine. Parce que la loi américaine elle-même. Elle est très permissive, je dirais, mais ça va éviter au moins les diffamations vis-à-vis des particuliers. Ah ben moi, si on me trouvait un Twitter qui était capable, pour autant que ce soit possible, de trier le bon grain d'ivraie, ça m'irait aussi. Mais c'est pas, pense, c'est pas pense, ce qui se passait.
Je pense que c'est ça le danger, c'est-à-dire que progressivement, les forces financières qui prennent le contrôle de ces instruments-là sont de toute manière difficilement contrôlables parce qu'elles sont tellement fortes que les États finissent par céder. On voit bien sur la taxation de l'impôt qu'on essaye de leur imposer sur les bénéfices réalisés et qu'on n'y arrive pas sur le fond, ou alors que c'est des misères à l'échelle de l'Europe. Voilà, c'est que c'est les forces qui, à partir de là. Et alors, c'est en ce sens-là qu'elles sont très intelligentes, c'est vrai. C'est qu'elles ont pris le drapeau de la liberté totale.
Bon.
C'est-à-dire qu'ils ne sont pas les censeurs.
Avançons. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que Twitter reste.
Je préfère trop de liberté que trop d'injustice. En gros, c'est ça.
Ça reste un microclimat.
Je pense que l'un va avec l'autre.
Twitter reste un microclimat. Vous avez 238 millions d'usagers actifs contre 2 milliards pour Facebook, WhatsApp ou encore Messenger. Vous savez quelle est la personnalité la plus suivie sur Twitter? C'est Barack Obama. 133 millions d'abonnés et les chiffres d'affaires 1,2 milliard de dollars pour Twitter l'année dernière avec une baisse de 1%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Alors, pour
en même temps,
ce premier thème.
L'action de Facebook est en train de se casser la figure.
C'est vrai, mais comme j'ai pas investi dedans, ça ne me dérange pas. On avance. Le repli identitaire à présent qui se renforce en France, titre l'Opinion ce vendredi. Nos confrères ont eu accès à une note des renseignements qui pointe une vague islamiste sur notre sol, mouvance alimentée sur les réseaux sociaux, touchant les plus jeunes. Augustin Donadieu revient sur cette note et on en parle juste après.
Le service central du renseignement territorial alerte. Dans une note qu'a pu se procurer le journal L'Opinion, le SCRT en arrive à la conclusion que le repli identitaire se renforce en France.
La frange fondamentaliste islamiste bénéficie d'un contexte favorable dont elle entend tirer profit. Elle paraît en capacité d'inscrire son action dans la durée, notamment en cherchant des relais auprès de certaines institutions internationales.
Référence directe au Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné la France pour avoir interdit à une femme de porter son voile lors d'une formation dans un lycée.
J'ai une technique pour les filles qui vont au collège, au lycée.
Autre inquiétude formulée dans la note de 12 pages du service central du renseignement territorial, la hausse des signalements pour port de tenue ou signes religieux dans les écoles.
La multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire est le signe de la banalisation de l'islam fondamentaliste par les jeunes générations de fidèles.
L'Éducation nationale publiera courant novembre son bilan mensuel des atteintes à la laïcité, après 313 signalements recensés en octobre.
Dans cet article, il y a le témoignage très intéressant de Christian Gravel. Il est préfet, il est à la tête du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Voilà ce qu'il dit. Cette visibilité du vêtement à caractère religieux est manifeste partout, dans la rue comme dans les piscines avec le burkini, le sport avec le phénomène des hijabeuses ou encore les universités. Ces manifestations identitaires traduisent une volonté de marquer l'espace. Un objectif qui n'a jamais cessé depuis l'affaire du foulard de Creil en 1989. Là, nous sommes clairement dans une dynamique offensive depuis 6 mois. Stratégie de la mouvance islamiste de provoquer des phases de tension suivies de phases de victimisation et de dénonciation d'une pseudo-islamophobie. Quel regard vous portez sur cette vague identitaire et ce repli identitaire, William Goldnadel.
Si vous me permettez,
oui,
le titre n'est pas
William,
bon.
Mais allez-y.
Le titre n'est pas bon, ce n'est pas un repli identitaire.
C'est quoi ?
La vérité, c'est que c'est une nouvelle phase, une nouvelle offensive islamiste qui se déploie sur le territoire. Mm-hmm. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a, et je pense que d'ailleurs le préfet Gravel, qui est un homme sérieux et compétent, dit, moi j'ai pas une phrase à retirer au jugement qui est en train de porter. On assiste à une offensive en règle. Et ce qui m'inquiète, je le dis, c'est que, notamment au cœur de l'éducation nationale, la solidité de ceux qui résistent, elle ne trouve pas l'appui nécessaire de l'autorité ministérielle et des recteurs. Et voilà. Et donc, ça serait très intéressant de faire le bilan de ce qu'a été l'hommage à Samuel Paty dans les lycées.
Alors on le verra. On le verra, puisque ce sera en novembre qu'on va avoir les signalements. On va pouvoir peut-être trouver un consensus, repli identitaire et mouvance. Islamiste sur notre sol, alors, vous voulez dire
quelle est la grossièreté.
Oui, alors vraiment, oui. Je suis choqué, mais bon, c'est
incroyable.
Pas
hein. Oui. Vous
me lancez
à parler. Il prend la parole. Il est chez lui.
Alors, je suis pas chez moi. Excusez-moi si vous devez parler. Voilà, je vous laisse donc la parole.
Avec le temps, vous obtiendrez mon pardon. Non, alors plus sérieusement sur un sujet sérieux. Il y a tellement d'explications. C'était tellement évident. D'abord, le nombre. Rien ne peut s'expliquer et se comprendre sans à la fois la conjugaison de l'immigration qui continue de progresser, y compris avec des gens qui n'ont aucune envie de s'intégrer et qui évidemment viennent de pays où le voile est quelque chose qui représente la norme, plus rajouter à ça une manière de cinquième colonne de l'extrême gauche qui appuie ce mouvement, qui considère effectivement que si on l'empêche, eh bien, ce serait du racisme. Mettez-vous à la place, donc, des gens qui veulent absolument prendre le pouvoir dans des quartiers déjà largement islamisés, de toute manière, avec en plus, si j'ose dire, il y a un communautarisme, une sorte de tribalité d'un côté, et avec une baisse de l'esprit de communauté française de l'autre. Il y a aussi ça, cela qui peut parfaitement expliquer le mouvement. Et puis, sans oublier, effectivement, les organisations internationales, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui n'a rien avec les droits de l'homme et qui est piloté par des pays islamiques et même islamistes, comme certains, comme le Pakistan ou que d'autres, et même la Commission européenne. La Commission européenne qui fait l'apologie du voile. Donc comment voulez-vous que dans notre malheureux pays, il en soit autrement ? Alors, on invoque la laïcité, mais la laïcité, c'est devenu un mot creux, un mot qui semble avoir perdu son sens. Et alors, ça se passe, l'offensive se passe notamment à l'école, et le pouvoir a trouvé que, alors qu'il y avait un ministre, Jean-Michel Blanquer, que je considérais comme parfaitement, parfaitement convenable, on a préféré le remplacer par un Papendiaï dont, à mon avis, le premier combat n'est certainement pas la lutte contre le communautarisme.
Il avait dit le mois dernier, la République est plus forte que TikTok, Pape Ndiaye.
Le problème, c'est que, bon, je veux dire, Gilles William peut se rassurer en pensant que le fléau partout, c'est l'extrême gauche et la gauche radicale. Le problème, c'est qu'il y a un conflit. Ce conflit, c'est sur un modèle de société, puisque vous avez aujourd'hui, c'est pas l'extrême gauche radicale, vous avez tous les pays anglo-saxons qui considèrent que notre modèle laïque est un mauvais modèle et qui considèrent que le modèle communautariste est un bon modèle. Mmh. Vous allez en Angleterre, le port du voile est généralisé. Voilà. Même dans la police. Hein. Voilà. Vous allez aux États-Unis, c'est pareil. Donc il y a une...
Et on en voit les dérives d'ailleurs.
Mais je ne suis pas en train de défendre.
Je sais.
Notre modèle français, républicain laïque, qui a vocation à être universel parce que c'est le seul modèle qui permet l'égalité, hein, y compris l'égalité entre les femmes et les hommes, il est aujourd'hui battu en brèche. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si toute la mouvance islamiste internationale concentre son offensive contre la France et contre les lois. Vous savez, quand il y a eu des otages qui ont été pris, la première chose que leur disaient les groupes terroristes, c'est « En France, vous persécutez les musulmans, vous leur interdisez de porter le voile ». Et là, donc, c'est pour ça que la question qui est posée, c'est la question de la manière dont la société française se défend avec la laïcité, par la laïcité, et en faisant qu'elle soit intransigeante. Et ceux qui sont chargés de la diriger doivent donner l'exemple. Et le problème qui est posé, c'est que nous sommes rentrés dans la théorie... Nous ne sommes pas sortis, malgré les déclarations qui ont été faites, de la théorie des accommodements raisonnables. C'est-à-dire ce qui s'est fait au Canada, c'est-à-dire on gère au cas par cas. Et à la fin, évidemment, les laïcs qui se battent, eux, pour une laïcité non pas intransigeante, mais une laïcité qui respecte les principes, se sentent isolés.
Est-ce que vous voulez qu'on avance ? Autre thématique qui rejoint un peu ce que vous étiez en train de dire sur l'Union européenne qui, par exemple, n'arrive pas à parler à l'unisson sur certaines thématiques. On va parler de l'imam Iquissen, le prédicateur marocain Hassan Iquissen, qui a quitté la prison belge après un mois d'incarcération, placé sous contrôle judiciaire. Je rappelle qu'il était visé par un mandat d'expulsion en France. La justice belge donne tort aux autorités françaises et refuse son extradition. Alors pourquoi la Belgique a pris une telle décision ? On voit cela avec Mickaël Dos Santos.
Un mois après son arrestation à Mons, Hassan Iquissen a été libéré sous certaines conditions. Pour prévenir le risque de fuite, l'imam marocain devra résider dans un lieu précis déterminé par ordonnance, porter un bracelet électronique. Cette annonce de la justice belge intervient une semaine seulement après le refus d'extrader l'imam vers la France. Une décision qui avait déjà fait réagir le gouvernement.
Je note que le parquet belge avait plaidé pour que le mandat d'arrêt soit respecté et que l'imam soit expulsé à destination de la France. Donc le jugement en a décidé autrement et le parquet fait appel de cette décision.
Fin juillet, Gérald Darmanin avait annoncé l'expulsion vers le Maroc d'Hassan Iquissen. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur avait même dénoncé les idées du prédicateur du Nord, fiché S. Des propos jugés radicaux, misogynes et antisémites.
Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux. Il nie l'égalité entre les femmes et les hommes. Il qualifie de, je cite, « pseudo-attentats » les attentats commis en France depuis 2015.
Le 31 août dernier, suite à la validation de l'arrêté d'expulsion par le Conseil d'État, Hassan Iquissen avait fui vers la Belgique. Une volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement selon les autorités françaises. Un départ pour un procès équitable et dans le respect de la loi, d'après l'imam.
J'entends ci et là que c'est un camouflet pour Gérald Darmanin, pour la France. Mais est-ce que ce n'est pas plus le signe que l'Europe, l'Union européenne, la France et la Belgique n'arrivent pas à avancer main dans la main pour lutter contre l'islam politique?
Vous avez raison. Moi, je ne vois pas en quoi il faut incriminer le ministre de l'Intérieur dans cette histoire-là. Hein. Et pardon de vous le dire, hein. Je suis peu suspect de sympathie pour cet imam antisémite. En même temps, il n'a pas commis les pires crimes du monde. Donc le fait qu'il soit... Je parle en juriste cette fois-ci, hein. Le fait que, et je suis pas non plus l'avocat de la Belgique c'est la France Empire. Donc, mais honnêtement, sur le plan juridique, que dans le cadre de la procédure, il y ait un ou une juge, je sais pas, qui ait décidé de le mettre avec un bracelet électronique le temps que la procédure soit examinée, j'ai vu pire crime de laxisme ces derniers temps. Vous arriverez pas à me rendre en colère dans une affaire comme celle-là.
Non, le problème, c'est que il ne s'agit pas de faire un procès aux uns aux autres. Oui. Le problème, c'est que la procédure qui a été utilisée par le ministre de l'Intérieur était une procédure fragile. Et il s'en est rendu compte à ses dépens. Voilà. Parce que s'il n'avait pas pris la procédure administrative, mais avait incriminé, donc mis en examen Et donc, à partir de là, mis en détention, bien, nous n'aurions pas été dans cette situation-là. Il a décidé, parce que certainement son cabinet lui a dit que ça allait aller plus vite, ça allait être plus facile de passer.
Procédure d'urgence.
C'est tout le problème que nous avons aujourd'hui dans notre état de droit. C'est qu'évidemment, il y a des avocats qui sont plus malins et qui regardent sans faire le procès des avocats, mais c'est leur rôle. Leur rôle, c'est de défendre leurs clients. Voilà, ils connaissent les failles de la procédure. D'ailleurs, l'imam est intelligent, il dit « mais j'ai fait ce que vous m'avez dit ». J'ai quitté le territoire, de moi-même en plus.
Et ce que je disais justement, c'est que...
Et c'est là-dessus que la justice belge est fragilisée. Parce qu'effectivement, le juge, il veut aller sur le fond. Et sur le fond, il va y avoir des discussions.
N'oublions pas que l'avocate de Sanik Hussein parlait d'une chasse aux musulmans pour expliquer, ou en tout cas donner la couleur de ce bras de fer judiciaire avec l'État et Sanik Hussein.
Je lui laisse la responsabilité de ce genre de déclaration, mais demain il fera jour. Hein. L'imam, il n'est plus en France. Il est sur le territoire belge, mais sa position est extrêmement fragile sur le plan du fait de pouvoir rester en Belgique. Il n'est pas impossible qu'il soit renvoyé dans quelques temps. Hein. Pas non plus. Non, franchement, je trouve qu'il y a d'autres moyens de se révolter contre la situation qui se passe en Europe que cette histoire-là.
Eh bien, avançons.
Cette histoire, elle pose un problème parce que du point de vue de l'opinion. Elle montre un pouvoir qui a une volonté et qui n'arrive pas à mettre en place sa volonté. Donc elle jette un doute sur la capacité des autorités à véritablement s'en prendre aux prédicateurs islamistes.
Est-ce que vous pensez que l'opinion a besoin de l'affaire Sanik Hussein pour se persuader que la France et l'Europe sont assez juridiquement démunis et même totalement démunis par rapport à l'immigration et certains excès. Je pense que, franchement, il y a de pires exemples que celui-là, c'est tout ce que je veux dire.
J'ai un désaccord avec vous, je pense que juridiquement, c'est ça le problème. C'est que juridiquement, le ministre de l'Intérieur et son cabinet, justement, donnent le sentiment d'une fébrilité et par cette fébrilité, ils se sont affaiblis et ils ont porté atteinte de manière involontaire à cette volonté qui est affichée en disant cette fois-ci on va aller jusqu'au bout, on va se battre et vous voyez on va pas céder.
L'incapacité également de la France et de la Belgique, peut-être William, de faire front commun, c'est ce que je disais dès le début.
Là on ne peut pas reprocher au gouvernement belge parce que le parquet belge est requis leur accompagnement. Oui. C'est le juge qui est indépendant, c'est pas le gouvernement, c'est pour ça qu'ils font appel.
Les juges belges sont les mêmes qu'en France, c'est ça qu'on...
c'est une enquête que Gilles William va conduire.
Pardon d'avoir, au-delà de ce que je pense de l'immigration, de ses effets, de l'islamisme, d'avoir un regard de juriste. Et je maintiens que le fait de le mettre avec un bracelet, le temps de la procédure, j'ai déjà vu pire crime de laxisme. C'est tout ce que je veux dire.
La publicité, on revient dans un instant. Et dans un instant, on va justement parler des obligations de quitter le territoire français, puisque Gérald Darmanin a eu des mots très fermes. On a un sondage également qui est sans appel. Les Français sont extrêmement déçus de la politique migratoire sur cette question-là. On va parler d'Emmanuel Macron, de ce gouvernement qui a enchaîné les 49-3 face aux motions de censure. Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau ? On va parler de Rouen, évidemment, puisque la France bascule-t-elle dans la loi du talion ? Justine et les écolos, des militants qui désormais s'en prennent à des tableaux, ça devient un effet de mode. Voilà le programme, il est chargé, c'est pour ça que vous allez rester avec nous.
Oui, oui.
Pour la deuxième mi-temps de Ça se dispute, à tout de suite.
Gagné.
Quasiment 19h30 sur CNews, la suite de Ça se dispute. Julien Drey, Gilles William Goldnadel, dans un instant. On parle de cette phrase qui n'est pas passée inaperçue hein, de Gérald Darmanin concernant les obligations de quitter le territoire français. Mais avant cela, le point sur l'info, Arthur Muriot.
1 milliard d'arbres seront plantés d'ici 10 ans, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron à l'issue d'une rencontre avec les pompiers, les élus et les professionnels impliqués dans la lutte contre les feux cet été. Le président de la République veut une stratégie nouvelle de prévention contre les incendies. Il a aussi indiqué de nouveaux moyens financiers et l'achat de Canadair supplémentaires. Face aux dégâts infligés sur plusieurs centrales ukrainiennes, les autorités prévoient des restrictions électriques sans précédent dans la région de Kiev. Elles se traduiront par des coupures plus sévères et plus longues. La Russie multiplie les attaques sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes depuis plusieurs semaines. On estime un manque d'électricité à hauteur de 30% de la consommation pour Kiev. Retournement de situation dans le procès du joueur de football Neymar. Le parquet retire ses accusations. Il avait initialement requis 2 ans de prison et 10 millions d'euros d'amende pour corruption à l'encontre de la star du PSG. Il estime que les accusations n'étaient pas construites sur des preuves mais sur des présomptions et que le dossier relevait de la justice civile et non pénale.
Voilà pour le point sur l'information. Le constat est sans appel. Les Français sont déçus des moyens mis en œuvre pour expulser les étrangers illégaux sur notre territoire. 79% d'entre eux, sondage CSA pour CNews, considèrent que le gouvernement n'est pas assez efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. Alors dans le même temps, Gérald Darmanin a réagi. Il promet de durcir le ton. Et voilà sa phrase. Nous avons un travail à faire pour rendre impossible l'avis des OQTF en France. Rendre impossible la vie des OQTF en France, ce sont des mots durs. C'est de la com, William, ou c'est faut le prendre au sérieux.
Non, mais d'abord 72%.
79. Même
79. Je suis inquiet. Parce qu'il y en a... Je suis inquiet de l'état mental des Français qui pensent que le gouvernement est efficace pour lutter contre cela. Hein. Vous savez, la réalité, elle est plus forte que l'idéologie. Hein. On voit bien, comme sans esprit de récupération, on voit bien sur le plan sécuritaire. Ce qui se passe avec nombre de migrants irréguliers, hein, c'est comme ça. Donc on comprend quand vous dites que les Français sont déçus, enfin c'est plus que ça encore. Écoutez, franchement, on a un président de la République qui nous expliquait qu'il y a 5 ans, que 100%...
2019. Il fallait exécuter 100% des OQTF.
100%.
Et là, on revoit le sondage.
On en est à... On exécute...
Trop peu, 20% sur cette année 2022. Donc,
comment voulez-vous qu'on puisse croire encore à la parole publique? Alors, il y a beaucoup d'explications à ça. Il y a, et je suis certain que Julien Drey pense la même chose que moi, il y a des problèmes juridiques sans fin, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais en plus, personne ne m'empêchera de dire, pas même M. Julien Drey, que vous avez une manière de cinquième colonne aussi qui culpabilise les Français, lorsque justement ils font part de les états d'âme, les font passer pour d'affreux racistes. Vous avez des associations nationales et internationales, et certains de mes confrères, qui évidemment font tout pour que l'État ne puisse pas remplir son obligation. Donc effectivement, pardon de vous le dire, dans l'état actuel juridique et politique national et européen, notamment à cause de la Cour européenne des droits de l'homme, même un gouvernement qui serait déterminé à agir sans état d'âme aurait du mal. Alors, il pourrait faire mieux que ça. Hein. Je ne veux pas non plus l'excuser totalement. Mais 100%, ce serait impossible.
Regardons un peu les taux d'exécution. 12% en 2018, oui. 12% en 2019, 6,9% en 2020. Alors on pourrait dire que c'est au début de la crise sanitaire. Un mot, Julien Drey.
Alors il y a plusieurs choses. D'abord, Julien a raison, ça je lui donne quitus. Le maquis législatif de la manière dont on gère les recours multiples et la complexité de la procédure. Parce que un des éléments de la complexité de la procédure, c'est que les fonctionnaires eux-mêmes, quand vous allez discuter avec eux dans les préfectures, vous disent nous. On ne sait même plus quelle est exactement la réalité des choses, puisque vous avez remarqué que tous les deux ans, on fait des nouvelles lois. Et on modifie, voilà, donc ils sont eux-mêmes, il faut les former 24 heures sur 24. Bon, et vous avez un maquis juridique, et l'administration, face à la batterie de spécialistes en droit public qui arrivent à trouver les failles, les recours, les machins, bah, elle perd évidemment souvent la bataille. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quelle est la faille du dispositif? La faille, c'est qu'entre le moment où on prononce une obligation de quitter le territoire, le recours est tellement étendu, le temps est tellement étendu que effectivement, comme on n'a pas de centre pour les mettre en détention et qu'il faudrait des dizaines et dizaines de centres, et vous savez déjà que pour ouvrir une prison, il y a toujours 10 communes qui
peuvent encore attendre.
Voilà, donc ça va être compliqué. Et puis c'est des moyens supplémentaires financiers. Il faut être honnête parce qu'il faut les surveiller parce que ça sert à rien. Bon, on a un problème. Donc moi, je pense que le ministre de l'Intérieur dit une vérité. Il faut reprendre, mais il faut vraiment reprendre. Le processus législatif, il faut reprendre la manière dont les choses se passent, et c'est pour ça qu'il faut qu'il entende aussi ceux qui depuis des mois, des années, lui proposent autrement. Et il faut, je pense que la première question qui va être posée, c'est comment on fait avec l'Europe. Parce que la faille, première, aussi, bien sûr. Elle va être là.
Bah,
elle
on est voit là. Le problème avec Hassani Hussein, par exemple. Avançons un tout petit peu, encore un peu de poloche, comme dirait Éric Dupond-Moretti. Le gouvernement d'Elisabeth Borne a activé pour la troisième fois en moins d'une semaine le 49-3, cette fois pour faire adopter le budget de la Sécu. Cette semaine, on a vu un étonnant mariage politique, puisque le RN a voté la motion de censure de la NUPES. À 50 voix près, le gouvernement tombait, mais a pu compter sur les Républicains. Bref. Ça tangue dans l'échiquier politique. Écoutez cet échange, du moins cette déclaration. C'était Elisabeth Borne, la première ministre, en tout début de semaine, qui s'en prend aux oppositions en disant « RN, NUPES, même combat, c'est le chaos ».
NUPES et Rassemblement National, si vous avez les uns comme les autres déposé une motion de censure, je n'imagine pas un instant que vous pourriez gouverner ensemble. Pas un instant. Mais malgré cela, malgré les différences majeures que je vous connais, je relève des arguments tristement communs. Ce que je retiens surtout de ces deux textes, c'est que le seul point d'accord entre la NUPES et le Rassemblement national, c'est de vouloir l'échec du gouvernement. Au sein de la NUPES, certains veulent le désordre, ou plus clairement encore, le chaos. Ils l'affirment et le revendiquent. Et le RN pense tranquillement pouvoir en récolter les fruits. Tous espèrent prospérer en bloquant notre action et en misant sur l'échec du pays.
Vous avez été surpris par ce mariage politique, le temps d'une motion de censure entre le Rassemblement National et la France Insoumise?
Oui, je ne m'attendais pas à ce que le RN, et d'ailleurs le RN avait dit le contraire.
C'est vrai.
Oui, j'ai été surpris, et à vous dire le vrai, un peu désagréablement. Je m'explique. Bon, alors il paraît que c'est malin de la part du RN, ça les a beaucoup amusés, de faire ça, tout le monde a hurlé, etc. C'est peut-être effectivement, je ne suis pas un grand connaisseur, c'est peut-être une très grande finesse tactique. Sur le plan stratégique, et notamment sur le plan de l'intelligence culturelle, je ne suis pas sûr que ce soit intelligent, parce que tout le monde a fait remarquer, comment l'extrême gauche, finalement, s'acoquine avec l'extrême droite. C'était cela. Et finalement, ça renvoie. L'extrême gauche n'accepte pas de voter pour l'extrême droite. Par contre, l'extrême droite accepte de voter pour l'extrême gauche. Moi qui suis pour traiter l'extrême gauche, à mon avis, bien plus grande mère de tous les maux que ce qu'on appelle l'extrême droite, je crois que ça n'est pas une bonne manière de pratiquer le combat culturel.
Sur cette semaine politique, Julien Drey, généralement, est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau, les mentions de censure, le 49-3 ?
C'est une tempête dans un verre d'eau. Soit on respecte la Constitution, soit on ne la respecte pas. Le 49-3 n'implique pas la chute du gouvernement. Et n'implique pas l'obligation d'avoir un gouvernement alternatif. C'est le cas en Allemagne. En Allemagne, si vous votez une censure, il faut que vous soyez en capacité de présenter un gouvernement alternatif. Le 49-3 n'est pas cela. Le 49-3, c'est l'arme qui permet au gouvernement de faire passer des textes et d'éviter le débat à l'Assemblée nationale. Et ce 49-3, il n'arrive pas par hasard. Il arrive parce que ce gouvernement a été mis en minorité sur plusieurs amendements importants. Et il a été mis en minorité parce que des députés de sa majorité n'ont pas voté avec lui. Donc le 49-3, sur le fond, il n'est pas destiné aux oppositions. Il est d'abord destiné à obliger ses députés à obéir et à devenir des godillots. Ceux qui n'ont pas voulu sur plusieurs amendements. Je signale par exemple sur quelque chose, un amendement qui tenait à cœur à une députée et dont on a des images extrêmement poignantes.
Il sera maintenu.
C'est pas sûr, parce qu'on va voir ce qui va se passer au Sénat. Voilà.
Mais et allez-y peut-être pour les téléspectateurs préciser.
Bah, même pour moi d'ailleurs.
Oui. Bon, c'est l'amendement de Mme Fiat qui a imposé au gouvernement de travailler pour qu'il y ait un quota de personnes par rapport au nombre de malades dans les EHPAD. Et elle sait de quoi elle parle puisqu'elle a été soignante et qu'elle a été en première ligne de ces combats-là. Donc c'est un amendement qui a été voté dans l'Assemblée nationale alors que le gouvernement était contre.
Et voilà. Il y a une séquence sur les réseaux sociaux, on voit cet amendement voté, elles font en larmes et la majorité a dit que cet amendement, normalement, serait maintenu.
Attendons lundi.
Attendons lundi. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la petite popoche.
La société. Après, si vous me permettez, une seconde. Voilà, moi, après, je ne vois pas pourquoi on reproche aux uns aux autres d'avoir voté. Voilà, franchement, il y a des tas de combats nécessaires, etc., contre le Front National, mais je veux dire, il y a un 49-3. Si on présente un 49-3, c'est qu'on est contre le texte. Mmh. Et donc, on demande aux députés de dire qu'ils sont contre le texte. Ou alors, sinon, ça veut dire que c'est simplement qu'on fait ça juste par esthétisme. Pour dire, vous voyez, on est contre, mais finalement, on n'est pas totalement contre. Et j'ajoute, vous me permettrez, que de dire, il aurait fallu qu'on fasse une motion de censure qui ne soit pas votée par le Front National, parce qu'on aurait dû mettre l'immigration dans notre motion de censure. C'est d'après moi une sacrée maladresse. Hein.
Roanne, ça aussi, ça a marqué l'actualité cette semaine. La France bascule-t-elle dans la loi du talion ? L'affaire nous renvoie à cette question. Pourquoi ? Et je rappelle les faits très rapidement. Un père de famille suspecté avec ses trois amis d'avoir tabassé un mineur isolé de 16 ans, accusé d'avoir agressé sexuellement sa fille de 6 ans. L'agresseur sexuel présumé se trouve actuellement en détention provisoire. Des coups lui ont été portés avec un câble électrique, lui ont valu ces coups. 10 jours d'ITT, le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour violence en réunion avec arme par destination, parallèlement à celle concernant l'agression sexuelle, bien évidemment. Ce matin, la garde à vue du père a été levée. Il est sorti sous les applaudissements de ses proches. Regardez cette séquence.
Alors après, il y a eu des violences, certes, parce que ce jeune a voulu se débattre, qu'il a voulu partir, se soustraire à ses responsabilités. Moi, je le dis, hein, pourquoi pas faire d'autres victimes ? Et quelque part, eh ben, ils ont permis d'arrêter tout ça. Voilà. Donc, ils vont devoir rendre compte, parce qu'on est dans une société civilisée, mais ils ont mis hors d'état de nuire un violeur et un pédophile qui s'en était pris à une mineure de 6 ans. Donc, c'est ça qu'il faut retenir.
Par rapport au placement sous contrôle judiciaire...
Vous venez d'entendre l'avocat de l'un des amis du père de la fille victime d'agression sexuelle. Est-ce que vous comprenez que le père se soit fait justice lui-même et qu'aujourd'hui, on puisse contester cette garde à vue ?
Je ne vous reproche pas de parler de ça, mais je constate, comme je l'ai dit hier chez M. Pro, je constate qu'il y a quand même une sorte de ruse diabolique de l'idéologie médiatique qui fait qu'on ne parle pas du crime bien plus horrible initial qui a été commis par un soi-disant mineur isolé. Enfin, il est certain qu'il est, il est sans doute pas mineur, mais que ce soit un migrant irrégulier, ça c'est sûr. Je constate qu'il y a toujours une bonne raison. Dans le là, on parle de la soi-disant récupération. Dans là, on parle maintenant de cette histoire-là. Ayons dit cela fermement. Écoutez, moi, je réagis à peu près comme la plupart des Français. Les Français considèrent que, et même les avocats, eux-mêmes, des gens en question, considèrent que ce n'est pas légal, que ça devrait être la justice, mais malheureusement, la justice, elle ne passe pas. Et que dans ce cadre-là, c'est difficile d'empêcher un père de vouloir, effectivement, lorsqu'il est en face du délinquant qui se trouve en face de lui, hein, de pas réagir de manière encolérée et sans doute avec excès. J'observe quand même que ces gens-là, d'abord, c'est pas des perdreaux de l'année, hein, déjà, hein, c'est pas des perdreaux de l'année, c'est des gens...
Qui vous parlez ?
Ceux qui s'en sont...
Du père et de son groupe. Ils ont connu des services de police.
Ce ne sont pas des perdreaux
et de la justice.
Ils m'inspirent de la sympathie. Hein. Ils m'inspirent de la sympathie, mais j'observe, sociologiquement parlant, que ce ne sont pas des perdreaux de l'année, qu'ils semblent être issus de l'immigration, et je ne suis pas sûr, je le dis franchement, mais c'est une réflexion d'ordre psychologique, que les Français qui sont, de manière d'autres Français... de plus vieilles souches qui sont peut-être dans une position plus résignée, auraient fait la même chose. De la même manière, si vous cherchez pouille à la femme de quelqu'un du milieu, vous risquez d'avoir des problèmes aussi. Il y a aussi cet élément culturel qui joue. Il n'en demeure pas moins que je considère en tant qu'avocat qu'il mérite les plus grandes circonstances atténuantes.
Julien Drey, quel regard vous portez ? C'était intéressant ce que disait Julien-William Goldadel. Comme la justice ne passe pas, eh bien certains vont se faire justice eux-mêmes.
Je pense que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas une réflexion intellectuelle du père de la petite fille en disant « la justice ne passe pas, donc je vais me faire justice moi-même ». Je rappelle le contexte, il surprend. C'est la mère qui surprend le violeur. Et donc elle crie, et à ce moment, le violeur s'enfuit, et le père de la jeune fille sort et part avec deux de ses amis pour rattraper. Donc au départ, il court après un délinquant qui est en fuite et qui s'en est pris à sa fille. Personne ne peut lui reprocher de faire ça. Et personne ne peut lui reprocher le courrier. Après, il le rattrape. Visiblement, il le passe à tabac parce que c'est comme ça qu'en tous les cas, c'est présenté.
10 jours d'ITT.
Bon. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout mélanger. Il faut reprendre les faits tels qu'ils sont. Vous êtes un père de famille, vous surprenez un violeur, vous n'allez pas lui dire « je vais appeler, attends ». Voilà. Au contraire, c'est, n'importe qui aurait eu ce comportement-là. Alors après, il l'a un peu brutalisé quand il l'a rattrapé. Bon, je ne veux pas avoir de la compassion pour un violeur, hein, je vous le dis honnêtement. Maintenant, je comprends, mais je ne justifie pas. Et je pense qu'il faut faire très attention parce que sinon, si on le justifie, et si les hommes politiques se mettent à le justifier, alors on va dire à quoi sert la justice. Chacun va se faire justice soi-même.
Bien sûr. Et c'est aussi l'état de notre société. Ça nous renvoie également à la déclaration de David Lisnard. Souvenez-vous, dans cette femme de 89 ans qui avait été agressée à Cannes, et il avait eu un tweet où il expliquait que si ça avait été sa mère, peut-être qu'il aurait agi différemment et aurait pu être très violent.
Mais permettez, chacun d'entre nous, et c'est normal quand il est concerné, est amené à avoir des pulsions et à agir. C'est pour ça qu'on a inventé la justice. C'est pour éviter que chacun se fasse justice soi-même et que ça soit la loi du talion. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'état de droit.
Exactement.
Non, mais bon, écoutez, même David Lisnard, il parle avec son cœur. Il parle et son cœur parle à un moment où, au moins, on le sait, dans le contexte qui est celui que nous vivons, où on ne peut pas considérer que la justice fasse rapidement et sévèrement son travail.
Allez, il nous reste quelques minutes. C'est une vague de bêtises, un effet de mode tristement populaire. Après Monet, Van Gogh, un militant écologiste s'en est pris au tableau de Vermeer. Aux Pays-Bas, collant son front sur cette œuvre mondialement connue, la jeune fille à la perle. Vous allez voir l'image, ce geste est le fruit d'activistes de l'association Just Stop Oil. Ce n'est pas la première action de coup de poing. La difficulté, c'est qu'en en parlant, et j'ai hésité à vous présenter cette image, c'est qu'en en parlant, en fait, on fait la publicité de ces actes les plus stupides à chaque semaine. En quoi détruire une œuvre restaure le climat, William ?
Non mais là, vous êtes, c'est une question rationnelle, on est dans l'irrationnel.
Oui, mais c'est pour ça que j'essaye de trouver peut-être quelque chose d'un peu plus intelligent que cette image stupide.
Pardon, l'écologauchisme, c'est le dernier avatar de l'extrême gauche. Hein. C'est, faut clair. Donc, il faut pas. L'écologie est une chose trop sérieuse pour la confier à ces gens-là. Je me permets de vous rappeler que c'est ces gens-là qu'on détruit d'une certaine manière le nucléaire, ce qui fait que maintenant on a les énergies fossiles plus carbonées. Hein, oui. Premièrement. Deuxièmement, on n'a pas le temps du débat, mais le débat sur le climat, c'est pas. Je crois complètement au réchauffement climatique, mais c'est pas aussi clair qu'on veut bien le dire. Ses conséquences, ses causes, la part humaine dans le réchauffement climatique. Et on apprenait, si vous avez peut-être lu le Figaro Magazine de la semaine dernière, on apprenait que certains des hackers ont surpris des gens du GIEC de chantiquer les résultats pour eux, justement au nom de la justesse de la cause. Et c'est dans ce cadre-là où il y a une compréhension médiatique formidable. Hein. Vous écoutez l'audiovisuel public, ces gens-là, au nom de l'urgence, ils ont le droit de tout faire. J'observe.
Des actes qui n'ont pas été condamnés par Sandrine Rousseau, bien mais au bien contraire, ou M. Grégoire, l'adjoint à la mairie de Paris.
Vous observerez aussi que dans le cadre culturel, parce que je crois aussi à l'intersectionnalité des luttes, n'est-ce pas ? Ils s'en prennent à des œuvres occidentales. Hein, c'est des œuvres occidentales classiques. Hein. Ils s'en prennent pas, ils n'auraient pas l'idée de s'en prendre à de l'art premier, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est tout un contexte. Évidemment, personne ne va raisonner en termes de l'égalité. C'est quelque chose qui n'arrive pas à l'esprit de ces gens-là. Donc, où que je tourne mon regard, vous voyez que j'étais un peu long, effectivement, ces gens-là m'inspirent le plus souverain mépris.
Il va falloir être plus court, Julien Drey.
Bah, écoutez, moi, je pense que je ne me rappelle plus quelle compagnie aérienne a été victime de ce genre de militants qui sont venus pour détraquer.
Regarder.
Et ils se sont collés la main sur le sol. Et la compagnie aérienne, elle n'a rien fait. Elle a ignoré cela. Et au bout de 48 heures, ils en ont eu marre.
C'était chez Porsche.
Alors, je vais devoir dire Renault Fiat, parce qu'il faut dire plusieurs marques, mais effectivement, c'était chez un constructeur automobile.
C'est ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas intervenus, ils les ont laissés.
Oui. Dans le froid, ils sont
là, la difficulté, c'est quand même, ça m'embête de voir un front sur cette œuvre.
Je suis d'accord avec vous, mais vous avez vous-même donné la réponse à votre question pour une part. Plus on va médiatiser ce genre de comportement, plus vous allez avoir des imbéciles. Parce que pour moi, ce sont des imbéciles. Ils vont se croire des nouvelles stars en passant à la télé et en faisant ce genre d'action. Et par ailleurs, Je rappelle, sur le plan idéologique, que quand on commence à s'en prendre à la culture, à brûler des livres ou à détruire des toiles, on ne peut pas se revendiquer de l'idéal de la gauche et de l'émancipation.
Non, c'est le début du totalitarisme. Merci à tous les deux dans un instant. C'est l'heure des pros avec Julien Pasquier. Et ce vendredi, il reviendra longuement sur ce drame touchant la petite Justine. Je vous laisse. On se retrouve, nous, cher Julien, demain.
Je croyais qu'on est resté jusqu'à demain matin.
Bah, écoutez, vous êtes collé à la table ou pas? Oui, bah, je vous laisse alors.
On va couper la lumière.
Mettez un peu de clim pour rafraîchir les idées de Julien Drey. Voilà. On se retrouve à 22h pour Soir Info Week-end. À tout à l'heure.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.